Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Grande Tchatch, l'émission de la rédaction du Ravi en partenariat avec Radio Grenouille. C'est Pape Diouf, ex-président de l'Olympique de Marseille et aujourd'hui tête de liste pour les municipales à Marseille, qui sera notre invité. Bonjour.
Bonjour.
À mes côtés pour l'interroger, Michel Guéroux. Mais avant ça, une tradition, monsieur Pape Diouf, une tradition dans cette émission. C'est le portrait de l'invité et c'est Michel Guéroux qui s'y colle.
Pape Diouf, merci. En 7 ans d'émission et une 60aine d'invités, devant le défilé de maires, députés, sénateurs, conseillers généraux et régionaux à la peau désespérément pâle, nous commencions à sérieusement broyer du noir. En entendant que la France élise dans une grande ville un maire noir, ou basané, pourquoi pas un peu arabe tant qu'à faire, merci d'apporter de la diversité à notre grande Tchad. Vous êtes né il y a 62 ans au Tchad. Vous avez grandi au Sénégal, vous êtes arrivé en France, à Marseille, pour vos 18 ans. Pape Diouf, merci. Votre CV, pour une fois, ne se résume pas à une succession de mandats, à un cumul de fonctions, à une ribambelle de batailles pour décrocher le dernier pompon électoral. Vous êtes aussi un véritable cadeau pour le chroniqueur fainéant que je suis. Votre parcours politique se résume en quelques mots. 0 mandat, 0 candidature... 0 adhésion à un parti. Après avoir multiplié les petits boulots, fait des études à l'IEP d'Aix, vous devenez journaliste à la Marseillaise, quotidien alors très communiste. Mais c'est à la rubrique sport que vous imposez, que vous imposez pendant plus de 10 ans. Pape Diouf, merci, grâce à vous. Pour préparer l'émission, j'ai dû m'intéresser au foot. De journaliste sportif, vous êtes devenu agent de joueurs. Boli, Desailly, Drogba, Nazri étaient sous contrat avec vous. En 2004, vous rejoignez l'OM, l'Olympique de Marseille, c'est ça Rafi?
Oui, tout à fait.
Ah, okay.
Oui.
Dont vous devenez président en 2005 durant 5 ans. Sous votre direction, le club va droit au but, je bosse, c'est dingue, et marque des points. Pape Diouf, merci. D'habitude, nous pouvons presque prédire les réponses que nos invités vont nous faire. Ça, alors qu'avec vous, cela s'annonce plus corsé. Sans programme, sans parti, sans promesse, sans dévoiler vos futures alliances, sans revendiquer clairement votre ancrage à gauche, à droite, au centre. Vous maîtrisez déjà, comme un pro, l'art du dégagement, celui de botter en touche toutes les questions des journalistes. Faut dire que vous êtes un champion de la synthèse. Capable de côtoyer Jean-Pierre Foucault, le sacré copain de Gaudin, comme actionnaire d'une école de journalisme à Marseille, et capable de fédérer les électrons libres de collectifs écolo-gauchos. Capable d'être décoré de la Légion d'honneur par François Hollande en 2013 et de refuser de vous rallier au premier tour au candidat socialiste à Marseille comme le président vous y a pourtant invité. Capable de réunir ceux qui veulent mettre un terme au clientélisme et aux affaires et capable de proclamer votre amitié pour Bernard Tapie. Votre candidature va-t-elle faire entrer sur le terrain électoral les abstentionnistes ou pénaliser les joueurs déjà engagés sur le terrain? Allez-vous favoriser la réélection du tenant du titre, Jean-Claude Gaudin, ou pousser l'avantage pour ceux qui espèrent un changement? Il faudra sans doute attendre la fin du match pour le savoir. Une chose est sûre, à cause de vous, je commence déjà à causer comme un journaliste sportif. Et là, Pape Diouf, je ne vous dis vraiment pas merci.
Pape Diouf, un commentaire à ce portrait à la sauce Ravi?
C'est simplement un portrait, j'allais dire, qui a été fait par quelqu'un qui avait toute la liberté de dire ce qu'il voulait. Je n'ai pas de correction à vrai dire à apporter. Non, j'ai rien d'autre à ajouter à ce portrait, sauf que quand j'entends que nous n'avons pas de projet, nous n'avons pas de programme, bon, c'est revenir un peu au discours convenu des commentateurs habituels de la politique.
On aura l'occasion de développer ça. Juste pour enlever l'ambiguïté, Michel Guéroux, tout à l'heure dans son portrait, disait que le président vous avait pourtant incité à vous présenter. Est-ce que c'est vraiment le cas?
Vous savez, personne n'était là-bas, sinon le président et moi-même.
C'est pour ça qu'on vous pose la question.
La rencontre était une rencontre républicaine, au cours de laquelle nous avons abordé des questions, et notamment la question marseillaise. Il m'a demandé mon avis sur la ville, sur ce qu'elle était devenue, sur ce qu'il serait possible de lui apporter. Je lui ai donné évidemment mon avis. Lui aussi, il m'a donné le sien. À l'arrivée, il m'a simplement dit qu'il comprenait le sens de ma démarche.
Michel Guéroux,
avant de venir à Marseille, parce que c'est bien l'objet de l'émission, c'est un peu la tradition dans cette émission, quelques points sur le national, le climat, et qui a un impact évidemment ici. Ce président, justement, François Hollande, il est aujourd'hui le président, dans les sondages, le plus impopulaire de l'histoire de la Ve République. Vous l'avez soutenu lors de sa campagne. Vous pensez quoi de cette impopularité?
Cette impopularité me paraît tout à fait naturelle au vu des difficultés aujourd'hui que traversent généralement tous les pays. la France y compris, j'ai du mal à envisager, j'allais dire, un seul pays pouvoir régler ses problèmes de manière isolée. Il est évident que les décisions que François Hollande et son gouvernement ont été amenés à prendre n'ont pas toujours été populaires, n'ont pas toujours été comprises parce que peut-être pas toujours bien expliquées. Il n'en demeure pas moins que, pour ma part, quand on reprend l'histoire de la Ve République, en règle générale, les présidents, depuis, j'allais dire, jusqu'à Dessin, puisque avant nous vivions encore les bonnes années qu'on a appelées les glorieuses de l'économie française, mais depuis le boom pétrolier qu'on peut situer dans les années 70 avec Giscard d'Estaing jusqu'à présent, tous les présidents qui se sont succédés ont connu, j'allais dire, ce pic d'impopularité, peut-être un peu moins large que François Hollande a connu ça, mais tous ont connu ça, même Mitterrand. Et souvenez-vous que si Mitterrand a pu garder le pouvoir, c'est qu'on était sous une autre forme dans le régime, puisqu'il était, lui, élu pour un septennat, et qu'il y a eu effectivement un changement de majorité, d'ailleurs, qui avait amené à l'Assemblée une majorité de droite, et Mitterrand a dû faire la cohabitation. Mais en deux années, il avait complètement renversé la situation pour se faire réélire. Comme quoi, on peut parler effectivement de versalité parfois de l'opinion.
Et votre regard à vous, vous pensez qu'il fait ce qu'il peut, il ne peut pas faire mieux, il faudrait qu'il se bouge plus, qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux?
Il est évident. D'abord, le soutien que j'avais apporté à François Hollande tenait à certaines réalités. Pour moi, je n'attendais pas qu'en arrivant, qu'il réalisât des miracles sur le plan social ou sur le plan économique. Il y avait dans la Sarkozy des choses qui ne tenaient plus pour l'originaire d'Afrique noire que j'étais. Lorsque ce gouvernement-là ne se réjouissait plus que parce qu'on expulsait de plus en plus d'étrangers et que ce gouvernement-là ne se réjouissait plus que parce qu'il donnait de moins en moins de naturalisation, je ne me retrouvais pas dans ce pays, dans les valeurs de ce pays dont Malraux disait que la France a été grande lorsqu'elle était grande aussi pour les autres. Et je pense que cette France étroite, cette France devenue, ce qu'elle était devenue sous la Sarkozy, ne me convenait plus. Donc c'est, j'allais dire, presque sur un sursaut de républicain que je me suis levé et que j'avais effectivement souhaité l'élection de François Hollande, non pas pour régler tous les problèmes, comme je l'ai dit, économiques ou sociaux, mais déjà pour restaurer la France dans ses valeurs originelles.
Ben justement, en parlant de restauration, le pays n'a jamais semblé aussi fissuré qu'aujourd'hui, avec la crise bien sûr, mais également le vivre ensemble qui semble poser des problèmes. On voit des manifestations récurrentes, alors pour l'avortement c'est une chose, également contre François Hollande, avec des débordements racistes, antisémites et une radicalisation. On assiste même à une espèce de jonction, parfois, entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Tout ce paysage politique, il est symptomatique de quoi pour vous, Pape Diouf?
Mais il est symptomatique d'une époque. D'une époque qui n'est pas propre, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la France, simplement. Et on sait qu'en période de crise, les corporatismes, de toute façon, retrouvent toujours vitalité et vigueur. Et c'est ce que nous vivons un tout petit peu aujourd'hui en France. Il est vrai que dans chaque corporation, d'abord, on songe à soi, on pense à soi, on pense aux solutions que l'État doit pouvoir apporter. Alors oui, il est vrai que nous vivons un peu cette période de crise économique, mais aussi, me semble-t-il, de crise morale. Et cette crise morale n'est pas non plus spontanée, elle est née de certaines situations que certains gouvernants ont voulu, puisque il y a, à mon sens, une illustration parfaite de cette crise morale. C'est aujourd'hui l'expression popularisée et admise presque par tous, ce qu'on appelle la libération de la parole. On sait que libérer la parole, qui est aujourd'hui devenue, j'allais dire, une sorte de leitmotiv, on sait ce que ça recouvre et ce que ça permet. Tous les excès aujourd'hui sont permis. D'autant que l'arrivée de ce qu'on appelle aussi les réseaux sociaux n'a pas, j'allais dire, permis de canaliser un peu mieux les commentaires, de canaliser un peu mieux ce que les gens peuvent dire. D'autant que derrière les réseaux sociaux, ben, peuvent se camoufler aussi, j'allais dire, ce qu'il y a de plus vil et de moins acceptable.
Bah derrière la Vox Populi, il y a quand même une réalité. La Suisse qui décide de limiter l'immigration de masse, à commencer par les ressortissants de l'Union européenne. On a également un sondage récent de l'IFOP sur les municipales. La ville d'Hénin-Beaumont, où les listes du Front National arrivent en tête aux deux tours. Alors qu'est-ce qu'on fait finalement? On dit Vox Populi, Vox Dei, on laisse faire et on s'adapte ou...
Si j'ai laissé faire, je ne serais pas là, vous ne seriez pas en train de m'interroger. Précisément, vous avez dit vous-même dans le portrait que zéro participation à la politique, zéro mandat, Si je suis là, c'est que forcément, ce qui se passe aujourd'hui a réveillé le citoyen qui est en moi. Alors, il faut, je pense, il ne faut pas tout mélanger non plus. Parler de la Suisse et parler de...
C'est un climat.
Évidemment, c'est un climat global et général que l'Europe connaît depuis quelques années. On sait que l'extrémisme, de plus en plus, prend de l'espace, et pas seulement ici en France, mais aussi dans les pays, notamment nordistes du continent. Mais j'allais dire que ce phénomène-là participe de ce que j'ai appelé tout à l'heure la libération de la parole, qui a entraîné et amené aussi ce qu'on peut appeler la libération d'attitude aujourd'hui. Les gens se camouflent moins, ils disent beaucoup plus ce qui, ailleurs, ou en tout cas, en d'autres périodes auraient sans doute provoqué scandale. Aujourd'hui, non. La parole est libérée. L'attitude aussi l'est devenue. Mais quand vous parlez d'un vote extrémiste, je ne pense pas, aujourd'hui en tout cas, je ne pense pas que le vote extrémiste ait une nature biologique ou idéologique. C'est plutôt un vote, j'allais dire, qui reste un vote de dépit. On a dépassé évidemment le stade de la protestation pour rentrer dans le dépit. Ce dépit qui illustre le renvoi dos à dos de tous les camps et de toutes les, de tous les partis de quelque nature que ce soit. Et ça, c'est peut-être une nouveauté dans la vie politique française qui amène d'ailleurs à Marseille notamment un taux record d'abstention, puisque les gens de moins en moins s'intéressent à la chose publique, mais il ne faut quand même pas non plus, j'allais dire, faire un amalgame de tout.
Alors vous avez parlé de dépit, un gouvernement qui s'était engagé à beaucoup de choses, le récépissé de police lors des contrôles d'identité par exemple, le droit de vote des étrangers repoussé, pour ne pas dire enterré, ça participe à tout ce dépit?
Évidemment, peut-être on ne peut pas parler de ce dépit, puisque ce dépit-là, les problèmes que vous venez d'évoquer, ne concernent qu'une fraction de la population. Or, le dépit est plutôt...
C'est celle qui est le plus concernée par l'abstention.
Oui, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de ça, personnellement. Je pense simplement que ce que vous venez de dire, c'est vrai. Ça faisait partie des propositions du candidat Hollande, qui n'ont pas été tenues, et sur lesquelles, moi, en ce qui me concerne personnellement, j'ai éprouvé une forme de déception, puisque c'est vrai que je n'arriverai jamais à comprendre que dans un périmètre donné, des gens qui y vivent, qui y travaillent, qui acquittent leurs droits, qui acquittent tous les, en tout cas, droits qu'on leur, tous les devoirs qu'on leur impose et qui y payent leurs impôts, n'arrivent pas à voter. C'est vrai que pour moi, cela a du mal à passer. L'histoire du récépissé, c'est plutôt, je dirais, une mesure aussi qui eût donné à la démarche policière, me semble-t-il, plus de panache et moins de matière à contester. Cela n'a pas été fait, je le regrette personnellement.
Michel,
un Français sur deux juge désormais, dans les sondages, toujours dont il faut se méfier, on le sait, le Front National comme un parti respectable et avec des idées qu'il faut écouter. Le fait de vous présenter, de choisir à Marseille le secteur où le leader du Front National, crédité de très bons scores, va se présenter, est-ce que c'est un choix lié à une volonté d'affirmer quelque chose face à la montée de ce parti extrémiste?
Vous savez, le choix que j'ai fait est un choix, j'allais presque dire collectif, d'un rassemblement que j'ai voulu, que j'ai appelé de mes forces, et auquel ont répondu beaucoup de citoyens qui ont su laisser à la porte, j'allais dire, des vestiaires, aussi bien toute idéologie que toute démarche politicienne. C'est ensemble que nous avons décidé et vu là où chacun pouvait le mieux rendre des services à ce rassemblement qui, rappelons-le, est d'abord une démarche citoyenne. À partir de là, oui, j'ai accepté l'idée qui m'avait été soumise que le 13-14 était sans doute aussi l'endroit, pour beaucoup de raisons, le nombre de votants, la symbolique que vous évoquez, était peut-être l'endroit où je pourrais le mieux rendre visible en tout cas mon action. Alors oui, j'ai accepté ce challenge, mais une fois encore, ne voyez pas dans ma démarche une démarche qui serait communautariste. Elle est loin de l'être. La seule chose, puisque je suis de toute façon d'avis et depuis longtemps en tout cas convaincu que pour qu'une ville comme Marseille puisse prendre son envol, qu'une ville puisse donner toute sa mesure, il lui faut une forme d'interpénétration de toutes les différences. Et c'est plus pour ça que je plaide, j'allais dire, que pour la défense d'une catégorie de gens.
Au-delà de la défense d'une catégorie de gens, on a vu qu'il y avait une radicalisation du discours tout à l'heure, vous en avez convenu. Mais au-delà de cette radicalisation des discours, la réalité sur le terrain, puisque vous sillonnez la ville et les quartiers depuis quelque temps, est-ce que cette radicalisation dans les quartiers vous apparaît réellement? Est-ce qu'elle est vraiment, elle est vraiment là, l'antisémitisme, l'islamophobie et d'autres encore? Est-ce que ça, vous le ressentez, vous, sur le terrain?
Mais écoutez, évidemment qu'on le ressent sur le terrain, on n'a même pas besoin d'aller sur le terrain pour le ressentir. Il suffit simplement, même si je n'en suis pas un expert, de parcourir un peu ce qu'en disent les réseaux sociaux. Il suffit simplement de voir aujourd'hui ce que, ici ou là, on peut écrire ou entendre, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Cela montre, en tout cas, disons que l'apparition des réseaux sociaux a mis à nu beaucoup plus d'hypocrisie. Hein. Aujourd'hui, on est à même de dire les choses comme on les ressent, ou en tout cas comme on les pense. Oui, je regrette évidemment, j'allais dire, cette radicalisation, cet excès aujourd'hui, j'allais dire, ce surcroît de racisme et d'antisémitisme que l'on ressent ici ou là, puisque cette France-là n'est pas, j'allais dire, justement, cette France qui pouvait se prévaloir d'être un peu le pays des Lumières, ce pays qui, en tout cas, pour bien d'autres pays qui sont à la recherche d'exemples, ce n'est pas cette France-là. C'est la France d'aujourd'hui qui me paraît être exemplaire et qui me paraît donner, j'allais dire, les gages d'une société pacifiée, d'une société saine, d'une société, je dirais, qui pourrait justement servir d'exemple à bien d'autres.
Il y a néanmoins des exemples troublants. L'affaire Dieudonné, on en parle. Dans les quartiers nord, une certaine forme de sympathie apparaît. Il y a même Alain Soral, son complice de pensée, qui vient très régulièrement dans les quartiers nord à Marseille et qui a une audience croissante. Qu'est-ce que vous allez leur dire à ces gens-là sur le terrain?
Vous savez, l'affaire Dieudonné laisse toujours une certaine forme de perplexité et d'ambiguïté. Autant que les choses soient très claires, tout ce que Dieudonné a dit n'est pas acceptable et n'est pas accepté par moi. Que les choses soient de cette manière-là, bien dites et bien claires. Après, il faut se poser la question, pourquoi Dieudonné, aujourd'hui, est-il l'objet d'une sympathie qui vient généralement de certains quartiers dits défavorisés? Est-ce que ce n'est pas parce que les habitants de ces quartiers-là ne ressentent pas une espèce de justice, entre guillemets, à deux vitesses? Est-ce que d'un côté, et c'est ce que disent d'ailleurs certains djihadistes, si on peut dire, qui disent, tant que nous autres Arabes, ou tant que nous autres Noirs, sommes, comment vous dire, l'objet de d'actes racistes, même les plus vils, ben, il n'y a pas, à vrai dire, j'allais dire, de levée de bouclier de la société. Et tant que ce sont peut-être les Juifs, tout de suite, tout le monde se lève. Alors, c'est peut-être ce sentiment un peu d'injustice qui explique, mais qui ne justifie pas, entendons bien, qui explique aujourd'hui cette sympathie dont peut bénéficier Dieudonné. Pour ma part, je pense qu'il n'est tolérable ni racisme anti-juif, ni racisme anti-noir ou anti-arabe. Il faut que la société parvienne à trouver des points de repère qui la soudent complètement, qui fassent que chacun puisse vivre dans cette société-là. Le bien vivre ne doit pas être simplement une noix creuse, mais une réalité.
Dieudonné, héros, d'une certaine manière, d'un certain loupen prolétariat, c'est inquiétant.
C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'essaie d'expliquer simplement une situation que vous aussi vivez, que vous aussi connaissez. Une explication n'est pas une justification. J'ai dit simplement aujourd'hui que, de manière beaucoup plus générale, il faut, avant parfois de dresser des actes d'accusation, comprendre en amont ce qui enfante certains problèmes, Michel, dans la société.
Alors évidemment, votre candidature, un peu surprise, hein, même, on en a longtemps parlé, mais la décision finalement a quand même surpris les habitués, les gens en place, le personnel politique. Il y a eu des plein de réactions, et dont celle de Samia Ghali, par exemple, disant la candidature de Papé Diouf constitue un risque réel de division et va inévitablement faire le jeu du Front National dans ce secteur, en divisant le camp républicain.
C'est fantastique qu'en deux temps, trois mouvements, je sois devenu à ce point si gênant. Ça veut donc dire que je dois probablement illustrer ou représenter quelque chose d'assez fort, je pense.
On rappelle de manière assez cruelle quand même qu'au dernier sondage, vous étiez à 4%.
Hein. Attendez, et moi je vais vous rappeler aussi cruellement en tant que journaliste, informez-vous mieux, puisque je vais vous dire que cette question-là n'a pas été posée sur la personne de Pablo,
mais sur le
mouvement du sursaut. Alors donc, bon, cruauté pour cruauté, monsieur, on peut y aller. Alors je reprends un peu la question de notre ami. Ce que je voulais simplement dire, c'est que ce reproche que l'on me fait ou qu'on tente de me faire, non seulement il ne tient pas du tout, pour la bonne et simple raison que, autant réunis, d'abord, vous savez, c'est un de vos illustres confrères, je pense, Albert Londres, qui disait que, quand il écrivait, il mettait la plume sur la plaie, peu importe s'il faisait plaisir ou déplaisir à l'un ou à l'autre. Alors, admettez, dans cette philosophie-là, qu'en entrant dans l'action publique, je me sois à peu près dit la même chose. Je ne sais pas, je ne me suis pas posé la question est-ce que je faisais du mal aux uns ou aux autres, mais simplement est-ce que j'allais faire du bien aux Marseillais. J'ai pas terminé. Que j'allais plutôt faire du bien aux Marseillais. C'est la seule question que je me suis posée. Alors, pourquoi aussi, plutôt que de prendre le problème comme vous l'avez pris, de se dire peut-être que la candidature de Pape Dufossi peut amener ceux qui, par dépit, allaient voter pour les extrêmes, mais de porter peut-être leur voix sur son nom. Pourquoi pas?
Pourquoi pas, Michel ? Vous avez dit, je vais mettre un coup de pied dans la fourmilière, donc les fourmis s'agitent, normal. Vous avez dit des choses aussi assez fortes, vous dites, les partis, ce sont des camisoles de force. Vous avez un discours très critique par rapport au personnel politique
de cette
ville.
Une fois encore, vous ne m'avez pas lu, je regrette pour des
alors,
journalistes.
Alors, précisez, vous avez dit ça.
Attendez, je n'ai pas dit ça.
Vous avez parlé de camisole de force.
Je n'ai pas dit ça. J'ai parlé de camisole de force dans la politique politicienne, c'est ça que j'ai dit, mais pas de la politique. La politique définie...
Les partis.
Attendez. Je n'ai pas dit les partis. J'ai toujours dit que la politique, dans sa définition grecque, était plutôt la gestion de la cité et de l'intérêt de ses habitants. Et que toute démocratie vivante avait besoin de partis, avait besoin de mouvements syndicaux, avait besoin aussi de mouvements associatifs forts. Et que donc, je n'avais rien contre la politique, aussi bien à droite qu'à gauche, il y avait des hommes dont la démarche était très honorable. Cependant, j'ai dit que l'idéologie avait pour effet d'être une phagocytise, j'allais dire celui qui se livrait à ça, et que quand on était dans la politique politicienne, dans un parti, effectivement, on pouvait être dans une camisole de force. Et que les mots d'ordre qui sont donnés étaient à suivre, même si on n'était pas d'accord avec ces mots d'ordre. Voilà ce que j'ai dit. Mais je n'ai pas critiqué la politique.
Je précise ma question. Si vous vous présentez à Marseille ce jour, si vous avez le sentiment que l'offre était insuffisante, que vous avez quelque chose à apporter que les autres n'apportent pas, donc la question c'est qu'est-ce que n'apportent pas Gaudin, Minucci et les autres et que vous pouvez apporter?
Faites-en l'inventaire vous-même. Vous êtes des observateurs de la ville.
Les gens s'intéressent plus à votre point de vue qu'à
évidemment. Il n'est pas compliqué de regarder tout ce qui ne va pas à Marseille. Moi, vous savez, je suis de ceux qui pensent, en tout cas qu'en 18 années ou un peu plus, que Gaudin n'a pas un bilan totalement négatif. Il y a des choses, évidemment, qui ont été faites dans cette ville. Mais,
par exemple, une chose.
Je vais vous dire de toute façon. Mais ce qui me frappe, c'est que souvent, effectivement, vous avez ce réflexe, c'est tic, journalistico-médiatique, de demander toujours votre programme. Alors, moi, je pose la question différemment. Quelle a été la réalisation la plus importante dans la ville cette année? Vous savez, la réalisation la plus importante, c'était quoi? Le stade Vélodrome. Et cette réalisation-là n'était dans aucun programme. Le Mucem, dont aujourd'hui on peut se prévaloir, est un joyau que l'État nous a donné. Euro-Méditerranée.
L'État et les collectivités, quand même.
À 50%, c'est l'État. Alors, vous savez, les programmes, c'est un peu cette chose qu'on réclame à corps et à cri. Et quand on ne vous le présente pas comme vous le souhaitez, c'est disqualifiant. Et quand on vous le présente, vous le mettez à côté, vous ne le lisez même pas. Alors, je ne vais pas tomber dans ce piège-là. Je ne suis pas venu, parce que si je voulais être homme politique classique, ce que vous avez l'habitude d'interroger et d'entendre, évidemment, je n'en serai pas là, puisque je serai simplement affilié à un parti. J'ai une autre démarche qui n'a rien à voir avec, de toute façon, celle que vous avez l'habitude de voir ou de commenter, et que, à cet égard-là, permettez-moi d'agir différemment.
Alors, on a bien compris que votre parti, c'était les abstentionnistes. C'était envers ces personnes-là que vous tentiez de faire de la politique, d'avoir une démarche originale. Les élections municipales auront lieu le 23 et le 30 mars prochain. Le gouvernement se mobilise avec un slogan qui est assez rigolo. Vous tweetez, pensez aussi à voter, Et une réalité, 59% des Français seulement se disent intéressés par ces élections municipales. Quel va être l'action forte pour intéresser ces abstentionnistes? Je rappelle qu'à Marseille, c'était 65%.
Vous savez, pour ce qui me concerne d'abord, la chose que je veux profondément, avec mes moyens qui sont ce qu'ils sont, mais avec une conviction absolument trempée, une conviction, j'allais dire, inébranlable, c'est de rendre la politique aux citoyens et de rendre Marseille aux Marseillais. Ça, c'est la démarche de départ. Alors, vous avez parlé effectivement d'un taux record d'abstention sur le niveau national et encore plus grand sur le niveau local. Il est vrai que le plus grand parti politique à Marseille, tout le monde le dit, c'est le parti des abstentionnistes qui est autour des 65-68%, le chiffre que vous avez effectivement cité. Parmi ces gens-là, il faut évidemment retrancher peut-être les non-inscrits, ce qui peut nous ramener autour des 40% de gens en situation, j'allais dire, de rentrer dans le bercail électoral. Bon, pour ma part, ce chiffre si important montre en tout cas une chose, le désintérêt des gens pour la chose politique, politicienne en tout cas, parce qu'ils en ont marre souvent d'entendre un discours qui n'a jamais de prolongement heureux dans les promesses qu'on fait, parce que ces gens-là ont depuis longtemps refusé la logique d'appareil qui, en tout cas, a été jusqu'ici le moteur même de la vie politique française. Je crois que ces gens-là, aujourd'hui, ils ont besoin de voir des gens, de voir une nouveauté, un frémissement, des gens qui peuvent venir leur rendre un peu plus de confiance pour qu'ils reviennent, j'allais dire un peu, dans le jeu de l'action publique, des gens qui se disent simplement, bon, ben, cette confiance que nous avions totalement perdue, nous l'avons retrouvée tout ou partie, et que désormais, on va essayer de voir un peu si les choses peuvent à nouveau changer.
Michel ?
Vous dites, Gaudin, des éléments positifs dans ce qu'il a fait, des éléments négatifs. Je parle de lui parce qu'il est au pouvoir depuis 20 ans. Vous êtes candidat à Marseille pour une nouvelle donne pour Marseille. Qu'est-ce qu'il faut poursuivre dans ce qu'a fait Jean-Claude Gaudin ? Et qu'est-ce qu'il faut changer pour cette ville ? Pour donner des repères, on en comprend bien qu'il n'y a pas de programme clé en main, mais quelle est vos orientations?
Vous savez, déjà, je vais rappeler une chose. L'équipe qui m'entoure est une équipe faite de gens très compétents dans leur domaine respectif. On nous a taxés d'inexpérience. On nous a taxés d'amateurisme. Oui, sans doute, c'est très vrai. Dans l'art, effectivement, de faire dans le clientélisme, dans l'art de faire parfois dans la corruption, dans l'art de ciseler les petites phrases, dans l'art de d'accord entre partis, entre petits copains, oui, nous sommes très inexpérimentés. Mais si vous prenez le CV des gens qui m'entourent aujourd'hui, tous dans la vie professionnelle, ils ont démontré leur capacité. Un peu à l'anglo-saxon, ce qu'on voit aux États-Unis, ce qu'on voit dans les pays nordiques, où les gens ont d'abord travaillé, ont démontré toute leur efficacité dans le travail et qui, quand ils rentrent dans l'action publique, au moins présentent deux avantages. Le premier avantage, c'est que l'efficacité dans le travail, ils l'ont. Et deuxièmement, ils n'ont pas forcément besoin des subsides publics pour vivre. Et je crois que un peu l'esprit qui prévaut chez nous est celui-là. Donc, à partir de là, il faut quand même dire les choses. C'est les gens qui m'entourent. Ils ont fait un inventaire de tout ce qui ne va pas dans la ville. Mais ne comptez pas sur moi, ici, assis, pour faire comme tous les politiques, vous donner cette impression de tout connaître, de A à Z, tous les secteurs de la vie, de pouvoir parler de tout, en même temps de passer intelligent et de vous laisser aussi paraître plus intelligent que vous ne l'êtes. Non, on ne va pas tomber dans ce piège-là. Restons les pieds sur terre. Admettons qu'autour de moi, il y a des gens aujourd'hui qui sont d'une très grande compétence, qui savent exactement où les choses ne vont pas, qui vont avec ce qu'ils le veulent et tout ce qu'ils le veulent. Nous souhaitons que ce soit le plus grand nombre des gens qui vont identifier là où il y a le mal, ensemble trouver les solutions, parce que de toute façon, il ne peut y avoir de solution qui soit préconisée contre la population. Ce n'est pas possible.
La Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenouille.
La Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenouille, avec nous aujourd'hui Pape Diouf, et on parle municipal, on parle Marseille, Michel Guéraud.
Est-ce que vous partagez le fonds commun qui avait été présenté par le collectif Le Sursaut, qui est en partie le socle du mouvement de la liste que vous avez constituée? Est-ce que ces analyses sur la ville fracturée, sur l'urgence sociale, sur les enjeux d'écologie urbaine, est-ce que ce sont des choses que vous reprenez?
Vous savez, Il y a une méprise souvent qui se fait, parfois je pense de manière assez volontaire, sur ma proximité avec le sursaut. Il faut rappeler ici que le sursaut est un mouvement initié par des gens qui, pour la plupart, faisaient partie ou en tout cas étaient dans des mouvements politiques ou dans des partis politiques et qui ont déjà trouvé que ce classicisme politico-machin ne leur convenait plus. Et que donc, ensemble, ils se sont retrouvés pour réfléchir sur une autre manière d'aborder la chose publique, sur une autre manière de jeter un regard sur les problèmes qui gangrenaient et dévisageaient la ville. Donc, il n'est pas anormal que parmi eux, certains aient rejoint la démarche que moi, j'ai décidé d'entreprendre, puisque l'analyse était à peu près similaire au départ. Mais ce qu'il faut savoir, quand vous parlez de SOC, il n'y a pas, à vrai dire, de SOC, ce sont des hommes et des femmes qui ont réfléchi, qui ont mis dos à dos aussi les pratiques qui se faisaient jusqu'à présent et qui souhaitaient emprunter une autre voie. Donc on s'est retrouvés. Mais il n'y a pas que eux. Il y a d'autres gens qui n'en font pas partie. Alors les analyses qu'ils ont faites, ce sont des analyses effectivement qui sont tout à fait accessibles à la compréhension, accessibles à un accord. Pas tout. On peut discuter effectivement de beaucoup de choses, mais le corps de tout ça, ça reste malgré tout la fracture sociale qui aujourd'hui est la marque la plus frappante de cette ville. Mais quand on parle de fracture sociale, il ne faut pas simplement s'arrêter à ça. La fracture, elle est généralisée. La fracture, elle est d'ordre économique. La fracture, elle est humaine. La fracture, elle est même, j'allais dire, au niveau de la sécurité sanitaire. Il y a tout. La fracture, elle est éducative. C'est ça, la fracture. Donc, il ne faut pas s'arrêter simplement à la fracture sociale et qu'on arrête aussi à Marseille toujours de parler de deux pôles, le pôle nord et le pôle sud, qui incarneraient cette fracture-là, parfois une incarnation qui va jusqu'à la caricature. C'est vrai que l'analyse peut-être n'est pas toujours fausse, mais Marseille ne se résume pas simplement à ces deux pôles. Marseille, c'est l'Est. Marseille, c'est l'Ouest aussi. Et je crois que trouver un équilibre d'une ville, ce n'est pas en tenir compte simplement d'un seul périmètre, c'est de tenir compte de la globalité de la ville.
Alors comment vous avez parlé de cassures généralisées de cette ville, pas seulement nord-sud, mais enfin des difficultés généralisées sur l'ensemble de la ville. Comment est-ce qu'on peut être, Pape Diouf, aujourd'hui maire d'une ville pauvre, en période d'austérité budgétaire, et qui plus est une ville qui est noyée dans le clientélisme?
Vous savez, tout de suite, effectivement, vous allez à l'essentiel, comment peut-on devenir maire? L'objectif de Pape Diouf n'est pas de dire c'est le fauteuil municipal du premier comme magistrat municipal qui m'intéresse. Ce n'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est qu'avec le maximum de Marseillais possible, nous allions vers ce qui peut redonner à la ville, j'allais dire, un nouvel élan, un nouvel allant aussi. Et pour ça, il faut que ce soit ensemble que nous réfléchissions et que nous mettions le doigt sur ce qui ne va pas. L'avantage que nous avons, vous l'avez évoqué tout à l'heure au début, vous avez dit vous-même que le président de la République m'a reçu. Mais vous pouvez ajouter aussi que le Premier ministre m'avait reçu. Et le secrétaire général de la présidence aussi, ils m'ont tous reçu. Si j'avais des positions à défendre, si j'avais des privilèges à préserver, je ne serais pas là devant vous en tant que candidat. J'aurais sans doute répondu à certaines choses qui auraient pu mettre non seulement promise, mais à d'autres démarches que j'aurais pu entreprendre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous, en ce qui nous concerne de toute façon, et c'est la vérité pour tous ceux qui sont autour de moi, nous n'avons rien, absolument rien à défendre. Nous n'avons rien, absolument rien à préserver. C'est notre formidable chance. C'est notre chance de pouvoir dire les choses telles qu'elles sont d'abord et de faire en sorte qu'elles soient comme nous souhaiterions qu'elles soient. C'est ça la différence qui est grande entre les autres et nous-mêmes.
Alors vous avez parlé de constats, il en sera question longuement durant cette campagne. Vous allez le faire, vous allez analyser, comme vous avez dit, vous allez localiser le mal. Alors en matière de politique de la ville, en matière d'aide de l'État, dans les années 80, il y avait 70 quartiers qui bénéficiaient des crédits de la politique de la ville. Il y en a aujourd'hui près de 2500, une inflation, peu de moyens. Alors, le candidat Pape Diouf arrivant dans ces quartiers-là, en l'occurrence, vous présentez dans le 13-14, que dire, que faire?
Une fois encore, c'est ce que j'ai esquissé tout à l'heure, il ne faut pas penser que la ville peut être recousue socialement, économiquement, humainement, simplement en essayant de cibler, j'allais dire, certains quartiers ou certains endroits de la ville. Il faut mettre en place nécessairement une politique globale. À cela, je répondais. Vous savez, souvent, parfois, on a parlé de la discrimination positive. C'est une notion qui m'est étrangère, dans laquelle, en tout cas, je ne me reconnais pas et dans laquelle je ne souscris pas. Les seules fois où je peux une tantinée souscrire peut-être à ça, c'est quand il s'agit de trouver un nouvel équilibre. Je ne dis pas un équilibre parfait, mais en tout cas, quand il s'agit de réduire au strict minimum les disparités qui marquent la ville. Il est vrai qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être dans les quartiers défavorisés envoyer un peu plus d'enseignants un peu mieux formés pour mieux former les jeunes au métier d'aujourd'hui et au métier de demain. Il faut sans doute aussi donner à ces quartiers-là un peu plus de moyens d'exercer le sport, qui n'est pas seulement du sport, mais qui est aussi un moyen de préserver la santé. N'oublions quand même pas qu'en matière de surmortalité dans la ville, c'est là-bas où on trouve le chiffre le plus important. N'oublions pas aussi que, et là, il y a une sorte, effectivement, de discrimination positive dans laquelle je peux à peu près me reconnaître. Essayer de réduire, comme j'ai dit, cette fracture sociale. Maintenant, quand vous me demandez ce qu'il convient de faire pour la ville, n'oubliez quand même pas une chose. La politique municipale seule ne peut pas résoudre tous les problèmes de la ville. Vous savez parfaitement, comme moi, que pour résoudre ces problèmes-là, il faut nécessairement l'aide de l'État. Sans l'État, la seule municipalité ne peut pas trouver toutes les solutions. D'autant moins qu'on nous rabâche aujourd'hui les oreilles avec une expression, un terme qui a fait florès, c'est celle de décentralisation. On décentralise, mais on ne déconcentre pas, puisque la déconcentration n'existe pas dans la pratique française. Tout est concentré à Paris. Tout est aujourd'hui entre les mains de l'appareil d'État qui est à Paris. Alors, il faut, quand on est effectivement élu, comme nous le souhaitons, en tout cas comme nous pouvons l'espérer, c'est de trouver tous les moyens pour amener l'État à s'intéresser beaucoup plus à la ville de Marseille.
Alors là, il y a un sujet sur lequel vous avez clairement pris une position, pour le coup. C'est celui de la métropole, où vous dites clairement « c'est une bonne chose, il faut y aller, il faut le faire et il faut bien le faire ». Alors qu'il y a, il y a un débat politique, il y a d'autres gens qui s'y opposent en disant ça va être un machin qui va éloigner le...
J'ai pas simplement dit il faut le faire. Si c'était aussi facile, ça voudrait dire qu'on a une panacée, une solution. J'ai dit que la métropole, de toute façon les grands périmètres sont appelés à se généraliser et plutôt et devraient profiter à un plus grand nombre. C'est ça que je pense. Mais tel qu'aujourd'hui le problème est posé, nous allons effectivement vers de grandes difficultés. Il ne faut pas que la métropole apparaisse aux gens comme une espèce, j'allais dire, d'énorme roue de secours qu'on envoie à Marseille, que les autres communes envoient à Marseille, parce que c'est ce qu'elles pensent, et que Marseille va amener comme dans le panier du mariage sa violence, sa paupérisation. Non, il ne faut pas voir le problème comme de cet angle-là. Il faut déjà, plutôt que de poser des problèmes, ou en tout cas des arguments qui font tout de suite dispute, qui font tout de suite controverse, qui font tout de suite polémique, essayons de trouver des arguments qui peuvent pour le moins rapprocher un peu, qui peuvent être pédagogiques pour essayer d'arriver à une métropole de toute façon nécessaire, puisque aujourd'hui le vrai problème des communes environnantes, c'est de se dire toujours, oui, c'est plus pour Marseille qu'on nous rabâche avec cette métropole-là que pour l'entité en tout cas prévue. Moi, je pense que la métropole est nécessaire, mais il faut sans doute s'y prendre différemment.
Alors, autre dossier, la sécurité, il va en être beaucoup question. Une solution, par exemple, qui est tout le temps mise en avant à droite, à gauche, les caméras de vidéosurveillance, voilà, comme solution pour lutter contre l'insécurité. Est-ce que vous, sur ce constat-là, vous dites, parce qu'il y a des collectifs aussi, il y a des gens autour de vous qui pensent que c'est inefficace comme dispositif. Qu'est-ce que vous dites là-dessus,
Comme nous ne sommes ni de gauche, ni de droite, que nous sommes ailleurs sans être jobertistes. Vous vous souvenez, Jobert, qui était ailleurs, hein? Bon. Sans être jobertistes, nous essayons simplement, avec la population, parce qu'il y a des gens sur le terrain, parce qu'il y a des gens qui recueillent au jour le jour, j'allais dire, les préoccupations des citoyens. Nous avons nos idées, nous allons confronter nos idées aux préoccupations de ces habitants-là et on va voir ce qu'il y a de mieux à faire.
Donc pas de réponse pour l'instant là-dessus.
C'est la démocratie participative de Ségolène Royal, à la sauce Pape Diouf.
Écoutez, à la sauce Pape Diouf, pourquoi à la sauce Pape Diouf? Je suis mauvais cuisinier, alors donc ne pensez pas que je ferai une bonne sauce, c'est pas du tout ça. La réalité, elle est simplement là, elle est que dans cette affaire, Nous pensons qu'il faut réfléchir sur les meilleures solutions, puisque le problème de la sécurité, quand on pose ça, en amont et en filigrane, apparaît le problème de la violence aussi, qui aujourd'hui fait la une des journaux. Le problème de la violence à Marseille a été souvent évoqué par les uns, par les autres, toujours, souvent, avec un vrai défaut d'analyse. Le problème de la violence à Marseille, c'est de se demander, cette violence-là, pourquoi elle existe, comment elle est venue. C'est ça la réalité. Ce n'est pas... Alors, une fois que cette démarche-là est entreprise, ça n'exclut pas, en même temps qu'on analyse et qu'on essaie de comprendre pourquoi elle existe, cette violence-là, à côté de ça, de préserver la tranquillité des gens, de veiller effectivement à ce que soit préservé aussi les biens, les personnes. Je suis absolument d'accord dans tout ça, mais il faut quand même se poser des questions et entreprendre les deux démarches en même temps, de manière concomitante. C'est ça qu'il faut faire. Ce n'est pas seulement de prôner des solutions démagogiques et populistes, du genre trouvons des solutions sécuritaires à ce problème de la violence. Il faut poser le problème de la violence, savoir d'où elle vient. Parce que la violence, elle a quand même toujours existé à Marseille d'une manière ou d'une autre, comme elle existe à Lyon, comme elle existe à Paris, comme elle existe à Nice ou à Grenoble. Sauf qu'aujourd'hui, la violence, elle a peut-être changé un peu de degré, mais pas de nature. La violence d'avant, on l'admettait un peu plus parce qu'on disait que c'était une violence, on ne le disait pas, mais on le pensait, que c'était une violence aristocratique, parce qu'elle était le fait d'une certaine oligarchie du banditisme, venue d'un peu partout. Aujourd'hui, la violence, elle est moins supportable parce qu'elle est d'essence populaire. Il faut savoir ce qu'on
de elle, elle a parle. Aussi un autre défaut, Pape Diouf, et c'est une réalité, c'est qu'elle concerne de plus en plus de mineurs, cette violence-là, des gens de plus en plus jeunes.
Ça revient à ce que je vous ai dit. Posez-vous la question. Je pense qu'on n'aura pas de l'heure qui nous est allouée aujourd'hui, qui nous est donnée, pour expliquer ces choses. J'ai mes idées là-dessus. J'ai mes idées sur le pourquoi de cette violence.
Alors justement, mais, vous avez des idées, Pape Diouf.
Écoutez, on n'aura pas le temps de parler de tout ça parce que vous allez vous faire des signes, parce que vous aurez envie d'autres questions à me poser, et puis bon, on n'en finira pas. Mais il y a évidemment des raisons qui expliquent cette violence-là, qui ne la justifient non plus pas. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut justifier cette violence, mais on peut l'expliquer.
Alors, faisant connaissance justement avec Pape Diouf, vous n'appartenez à aucun parti, donc pas de doxa officielle. Donc, c'est votre réponse propre qui nous intéresse. Jean Biard, désormais porte-parole de Patrick Mennucci, socialiste, souhaitait expérimenter une légalisation encadrée du cannabis à Marseille. Alors, ça concerne beaucoup de gens, le cannabis, à Marseille encore plus, parce que c'est source de trafic. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut expérimenter ça?
Vous savez, moi, c'est ces experts en analyse qui viennent nous sommer, il faut voir ce qu'il convient de faire, voir ce qu'il ne convient pas faire.
Jean Biard qui voulait vous rejoindre, qui n'est pas venu avec vous finalement.
Qui n'est pas venu et qui a su simplement, j'allais dire, prospérer en disant sans doute à ses actuels associés que Pape Diouf me réserve la plus grande place pour essayer de trouver une autre place peut-être de l'autre côté.
Vous avez la dent dure quand même, Pape Diouf.
Non, pas du tout, je dis les choses telles qu'elles sont. L'histoire du cannabis, oui, ça peut être un débat. Et le rôle aussi du premier magistrat de la ville, c'est de susciter des débats, voilà. c'est de poser des problèmes, c'est d'apporter, en tout cas de susciter et de suggérer des solutions. Mais je reconnais que le problème du cannabis peut effectivement être tout à fait discutable et devrait être discuté.
Autre question très débattue chez vous, dans la campagne, le clientélisme. Mennucci, par exemple, a dit qu'il voulait y mettre un terme. Et il pointe le syndicat Force Ouvrière des Territoriaux, syndicat majoritaire en mairie et à MPM, l'agglomération, syndicat qui, lui, quasiment explicitement, a choisi le maire sortant comme le bon candidat en lui décernant un titre de membre d'honneur. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de gouvernance et que le futur maire de Marseille doit s'emparer de ce problème et changer des choses, changer la donne à ce niveau-là?
Il n'y a pas un problème, me semble-t-il, qui doit être étranger au premier magistrat de la ville. Maintenant, quand vous me parlez du syndicat FO, n'attendez pas de ma part une réaction du genre de celle d'Allègre qui, en parlant de l'éducation nationale, avait parlé de Mahmoud à dégraisser.
Ça lui a coûté son poste.
Mais j'ai pas de poste, moi, donc j'ai pas de ce risque-là. Hein, bon. Mais, simplement, je crois que tout est matière à discussion. Tout est matière à regarder de près pour arriver à trouver la bonne solution qui profite à la ville et à ses habitants. C'est le seul souci que nous avons. Vous savez, l'avantage que nous avons, nous, une fois encore, je vais me répéter, mais il faut vous le dire, nous n'avons rien à défendre. Vous savez, il y a eu des gens d'un parti politique bien connu, pour ne pas le citer, le Modem, qui a dit qu'il avait rompu les négociations avec nous. Cela m'a fait rire, ce mot de rompre, ce verbe rompre qui amène à la rupture. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ont dit, ils ont arrêté les négociations. Mais quel mot impropre quand ils ont utilisé en disant ils ont rompu les négociations. Pour négocier, il faut avoir quelque chose à négocier. Nous n'avons rien à négocier. On ne négocie rien parce que nous n'avons rien à négocier. Ni position, ni ceci, ni cela. Alors, évidemment, ces gens-là, c'est eux-mêmes qui se sont, j'allais dire, publiquement mis mal en faisant ce type de déclaration. Comme quand ils disent aussi que notre candidature est une candidature de témoignage. Quand on en arrive à dire que notre candidature est une candidature de témoignage, je crois que l'aveu est brutal et retourne de manière cinglante vers ce qu'ils l'ont dit. Parce qu'une candidature de témoignage montre au moins le désintérêt de ceux qui ont suscité cette candidature.
Papillon, vous avez dit que ce n'était pas un problème de pourcentage. La réussite ou l'échec de votre démarche n'était pas lié au pourcentage. Est-ce que ça veut dire que 4%, 10%, 20%, c'est indifférent? Ou est-ce que... qu'est-ce que vous visez exactement?
Évidemment, si on veut s'en tenir à la règle arithmétique électorale classique, avoir le maximum de points est souhaitable. Pour nous, ce que nous voulons et souhaitons, c'est être au deuxième tour une force incontournable qui puisse continuer à prôner ce qu'elle prône, c'est-à-dire l'intérêt des Marseillais. Maintenant, j'ai dit, dans une forme de boutade qui a été comprise par les uns à leur manière, par les autres d'une autre manière, j'ai dit que si je devais avoir 3 ou 4%, mais que ce soit un véritable coup de pied dans la fourmilière et que ces 3 ou 4% permettent de changer la donne fondamentalement et d'aller dans le sens de la population et de la ville, je préférerais ça plutôt que d'avoir 20% qui laisserait en l'état le conservatisme qui aujourd'hui asphyxie la ville. Voilà ce que j'ai dit. Mais on sait ce qu'est quand même l'arithmétique électorale. On sait que pour pouvoir peser et pour pouvoir être, j'allais dire, influent dans les décisions, il faut effectivement réunir le maximum de votants qui vous soient favorables, de manière à dire voilà ce que nous souhaitons, mais ensemble.
Il faut 10% pour aller au deuxième tour. Si vous ne faites pas 10%, vous prenez langue avec qui, Pape Diouf?
Attendons que ça arrive. Pourquoi voulez-vous déjà vous projeter dans ce qui n'est pas arrivé? Vous savez, je vais vous dire une chose. Les expertises les plus fines en matière de doctrine électorale, la sociologie la plus, ou la science politique la plus sophistiquée en matière aussi d'approche électorale, ne me feront pas changer d'avis. Ce scrutin garde son mystère. Aujourd'hui,
on voit des grandes tendances quand même.
Les grandes tendances, vous savez-vous ce que vont faire les 60% de gens qui ne votent pas? Vous le savez? Ah, mais vous êtes alors, on va vous engager. Vous allez nous dire ce qu'il convient de dire et de faire. Ces gens-là n'ont pas voté la dernière fois. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. Aujourd'hui, la seule certitude de ce scrutin, on peut à peu près penser que les militants, des vrais militants, des deux camps, vont sans doute voter pour leur camp. C'est la règle. Je pense que cette chose-là est à peu près incontournable. Pour le reste, qui peut aujourd'hui, malgré de savantes cogitations sociologiques et tout ce qu'on veut, nous dire voilà ce qui va se passer demain? Personne ne peut le dire. Ne préjugeons pas de l'attitude des Marseillais. Laissons-les décider en toute liberté et en toute tranquillité.
Il y a un point commun avec le tandem Benamias-Madrol dont vous parlez, du modem marseillais dont vous parliez tout à l'heure. Et vous, aujourd'hui, c'est que lors des dernières municipales, eux aussi n'avaient pas voulu dire au second tour dans quel camp ils allaient se positionner. Est-ce qu'ils iraient à droite? Est-ce qu'ils iraient à gauche? Est-ce qu'ils iraient... est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que vous allez laisser vos électeurs dans cette...
Vous savez pourquoi?
Celui qui mettra au premier tour un bulletin de vote, Pape Diouf, ne sait pas qu'est-ce que vous allez dire au second tour.
Je vais vous exprimer mon sentiment personnel. Je n'en ai pas discuté avec tous mes amis pour savoir ce qu'ils peuvent penser. Les choses peuvent évoluer. Mais moi, mon sentiment personnel dans cette affaire. D'abord, l'électeur qui va voter pour moi au premier tour, il vote pour un programme, pour une démarche.
Pour l'instant, en construction, on a bien compris.
Oui, mais bien sûr, les actes programmatiques, de toute façon, vous les aurez, quand vous voulez. Vous les aurez. Bon. Ce sont des gens qui vont voter pour une démarche, citoyenne, pour des gens en qui ils peuvent avoir confiance, pour un changement, en tout cas, de démarche politique. Ces gens-là attendent de nous, attendront de nous, que nous soyons influents. Alors, demandons-leur d'entrer pour ne pas avoir à rentrer dans ces querelles de chapelle que vous évoquez, à avoir une force telle que, mais c'est de nous dont on aura besoin, et principalement de nous, et que nous puissions simplement être peut-être les leaders de tout ça. Mais, supposons, parce que l'élection veut que les choses soient comme ça, que les choses se passent autrement et qu'il faille que nous nous décidions. Mon avis aujourd'hui est que, un, je ne donnerai pas de consigne de vote parce que les voix ne m'appartiennent pas. Elles appartiennent simplement à un public, à un électorat que j'ai, en tout cas moi, pour vocation de respecter. Parce que je ne prends pas les gens pour des veaux. Même si à une époque, c'est vrai que le général de Gaulle avait taxé les Français un peu, en parlant d'eux, les avait traités de veaux. Mais moi, je ne les prends pas pour des veaux. Je pense que les gens sont suffisamment intelligents pour savoir où ils veulent, où ils vont et où ils vont mettre leur urne. Donc, sur ce plan-là, je leur laisse quand même cette liberté-là. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est que si on nous demandait maintenant, à titre personnel, vers où va notre penchant, bah, peut-être que les questions seront posées, non pas entre état-major politique, de manière en catimini, mais de manière publique. Voilà. Est-ce que, par exemple, c'est un simple exemple, est-ce que vous allez installer une bibliothèque dans le plus grand quartier de Marseille, avec ses 45 000 habitants à la Belle de Mai, qui aujourd'hui n'en a pas une seule? Oui ou non? Voilà. Oui. En s'engageant publiquement à ce moment-là, au moins les électeurs qui nous auront fait confiance savent sur quoi, c'est un exemple que j'ai donné là, sur quoi les autres vont effectivement axer leur action.
Dans ce qu'on entend, pas de consigne de vote au second tour si vous n'êtes pas en position évidemment de leader, vous allez soumettre les candidats restants à un interrogatoire, une série de questions très précises pour les amener à se positionner.
Une fois encore, c'est ma position personnelle aujourd'hui.
C'était la position de Montebourg durant les primaires d'ailleurs, avec un certain nombre de propositions acceptées ou pas, et en fonction on donne les voix. Un des sujets qui donne la migraine aux candidats pour ces municipales, c'est l'économie. Vous avez rencontré les chefs d'entreprise. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ça, on le sait plus ou moins. Plus de facilité. Qu'est-ce que vous allez vous faire pour apporter une meilleure attractivité à cette ville de Marseille?
Les chefs d'économie, les représentants de l'économie marseillaise que j'ai rencontrés étaient plutôt localisés sur le nord de la ville. C'est des gens donc qui avaient d'autres problèmes, des problèmes liés effectivement aux problèmes qui sont constitutifs de ce périmètre-là, c'est-à-dire la violence, c'est-à-dire les caractéristiques de la zone franche et bien d'autres. C'est de ça dont nous avons discuté de manière assez collégiale. J'ai donné mon avis en leur disant aussi, puisqu'il y avait des réclamations, pas des recommandations, enfin des recommandations qu'ils souhaitaient donner, des attentes aussi qu'ils ont exprimées, en leur disant que je n'étais pas là l'expert requis pour répondre à toutes leurs questions, mais qu'au sein de chez nous, il y a des gens qui, eux, ont réfléchi totalement, en profondeur sur ces questions-là, et que ce serait très souhaitable qu'ensemble, nous puissions, effectivement, voir cette question et lui apporter des solutions. Mais l'économie, de toute façon, de la ville, ne saurait être isolée de ces autres problèmes, puisqu'on sait que dans ces quartiers nord, le problème du transport est déjà quelque chose qui asphyxie, qui pose problème aux entrepreneurs. On sait aussi que le problème de la sécurité se pose d'une manière ou d'une autre. On sait que bien d'autres problèmes se posent de toute façon. Et d'ailleurs, j'ai été assez content d'entendre de leur part qu'ils ne négligeaient pas les autres dimensions, puisque aussi bien la dimension culturelle que la dimension, j'allais dire, du sport loisir, ce sont aussi là des dimensions qui n'ont pas échappé à leur sagacité et à leur réflexion. Je m'en suis réjoui.
Pape Diouf, en arrivant comme ça de manière, j'allais dire naïve, mais franche en tout cas, avec des réponses comme vous faites à des chefs d'entreprise, en leur disant finalement moi j'ai pas la solution, on va faire un brainstorming général et on arrivera ensemble à trouver la solution. Est-ce que c'est payant d'abord? Est-ce que vous avez perçu des gens qui étaient sensibles à cette démarche, ou est-ce que au contraire, les gens ou les chefs d'entreprise sont plutôt réticents?
Vous savez, je vais vous dire, il n'était pas difficile pour moi de faire comme font tous les hommes politiques.
Arriver avec un kit
classique,
c'est-à-dire
de passer la soirée avec mes spécialistes, mes experts, de prendre des notes, de les mettre là, dans la voiture, de bien les lire, et de venir de leur débiter ça. J'aurais bien pu le faire. J'ai quand même les moyens intellectuels de comprendre de tel problème et de les exprimer. Je ne l'ai pas fait, par honnêteté. Et d'ailleurs, quand vous me dites, est-ce que ces gens-là comment ils ont réagi? Mais je ne sais pas comment ils ont réagi. Peu m'importe comment ils réagissent aussi. La réalité pour moi, une fois encore, c'est que je ne cherche pas à entreprendre des démarches électoralement payantes. Ce n'est pas ça que nous cherchons. Ce que nous voulons, nous, c'est réunir le maximum de personnes qui entendent notre discours, qui comprennent notre démarche et qui se disent, enfin, voilà des gens qui ne nous mentent pas, qui ne nous prennent pas pour des cons, et avec eux, on va essayer mais de changer les choses. Voilà. Si les gens n'ont pas entendu notre discours ou ne veulent pas nous suivre à un moment donné, ben, c'est que pédagogiquement, nous n'aurons pas été bons. Ou alors que mais ce que nous avons dit n'a pas été entendu. Mais en ce moment-là, moi, en ce qui me concerne, je pose le baluchon et je vais en tout cas retourner à mes chèvres.
Michel ?
Il y aurait beaucoup de choses à dire, l'émission va bientôt se terminer, mais peut-être quand même un mot sur Bernard Tapie. Vous reconnaissez votre amitié avec Bernard Tapie. Bernard Tapie, on sait qui c'est, le rôle qu'il a joué à l'OM et ça vous rapproche. C'est aussi aujourd'hui à la fois un homme en difficulté avec la justice, avec son parcours que d'aucuns qualifient d'affairiste. Et c'est aussi le patron du principal quotidien de la ville, La Provence. Vous assumez donc cette proximité avec un personnage qui a fait preuve en politique de beaucoup d'implications que d'aucuns aussi ont qualifié de démagogie, de clientélisme. Est-ce que vous vous mettez à distance de ce personnage ?
Mais je vais vous dire, si je ne devais plus parler dans cette ville de Marseille avec les gens qui ont maille à partir avec la police, vaut mieux que je reste chez moi parce que ou la justice, je ne parlerai plus avec personne. Reconnaissez-le quand même. Hein? Bon, hein, je pense que dans ce cas-là, vaut mieux que je rentre chez moi, je tire rideau et puis je ne parle plus avec personne. Bon, cela dit, Bernard Tapie reste quelqu'un. En parlant de lui, j'ai toujours parlé de ce président qui avait été sans doute le seul à Marseille à apporter sa notoriété au club et non pas l'inverse. Et j'ai dit que de tous les présidents que j'ai connus, puisque j'ai été journaliste quand même à Marseille, de tous les présidents que j'ai connus, peu ou quasiment pas parmi eux sont ceux qui s'intéressent à la vie olympienne. Bernard Tapie s'en est toujours intéressé. Lorsque j'étais président de Marseille, périodiquement, il m'appelait pour parler avec moi. On échangeait sur la manière de conduire le club, sur certaines affaires concernant le club, de manière, j'allais dire, amicale. Oui, Bernard Tapie, la fascination qu'il exerce sur les gens, ce n'est pas moi qui l'ai suscité. Et je dirais, pour répondre encore à cette question-là, lorsqu'il est arrivé, que la Tapimania a déferlé sur la ville, j'étais sans doute le seul journaliste, le seul, et vous pouvez le vérifier, le seul qui s'opposait à ce que Tapie voulait et demandait et que je jugeais excessif. J'étais le seul. Puisque Tapie n'a été commencé à être approché que quand ces problèmes ont été mis à jour. Le courage a manqué à beaucoup de gens au moment où Bernard Tapie était en haut de l'affiche, mais ce courage est revenu quand ils ont connu Tapie peut-être un peu plus fragile. Je ne suis pas de cette nature-là. Je garde les relations que j'ai avec lui.
Aujourd'hui, Bernard Tapie, comme le disait Michel Guéraud tout à l'heure, président et de même patron du principal quotidien, La Provence. Vous échangez encore avec lui ? Il vous téléphone régulièrement pour échanger durant cette campagne. Conseils, mais vous n'en voulez pas des conseils. Échanges.
Mes relations ne se font pas à la carte. Mes relations, elles existent ou elles n'existent pas. S'il y a besoin de sa part de parler avec moi ou moi besoin de parler avec lui, je le fais. Il n'y a pas besoin, j'allais dire, de voir si c'est le lundi que je parle avec lui, le mercredi ou le vendredi.
Pape Diouf, dernière question et on arrive au terme de cette émission. Il va y avoir un remaniement ministériel, les municipales, après les municipales probablement. Si aujourd'hui le président de la République vous propose un secrétariat d'État, quel qu'il soit,
ou au poste de ministre,
ou ailleurs, est-ce que vous l'acceptez ou pas, Pape Diouf ?
Vous savez, je vais vous dire une chose. En ce qui me concerne dans l'action publique, je n'ai jamais cherché des intérêts particuliers. La seule chose qui m'intéresse, et c'est ce qui m'intéresse à Marseille aussi, c'est de servir et non pas de me servir de Marseille. C'est servir Marseille et non pas de me servir de Marseille. Demain, si une action publique m'était proposée et que j'ai le sentiment profond que dans cette action publique qui m'est proposée, je peux concrètement apporter quelque chose, croyez-moi que peut-être je dirais oui. Mais si je n'ai pas le sentiment, si ce n'est que la vanité qui entoure cette proposition et l'éventuelle acceptation, je dirais non. Et d'ailleurs, j'ai dit à un homme politique marseillais qui parlait de notre naïveté, qui parlait de notre inexpérience, que je travaille quand même depuis l'âge de 18 ans. Jusqu'à présent, j'ai travaillé. Contrairement à beaucoup d'hommes politiques qui pensent avoir l'expérience de la vie active parce qu'ils sont simplement dans la politique aérie, je dirais, depuis tant d'années. Et à ce bonhomme, responsable du MoDem, qui s'appelle Madrol, on peut dire son nom. La question que j'ai posée était de savoir, entre lui et moi, qui a le plus rendu, qui a le plus fait quelque chose pour Marseille. Je crois que la réponse n'est pas forcément à son avantage.
On restera sur cette réponse-là. Merci, on se retrouve le mois prochain. Bye.